Rio 2016, les Jeux continuent. Voici Alexandre Coupal.
La plus cordiale des bienvenues à vous tous et à vous toutes à cette édition du 14 septembre. Les 24 dernières heures ont été bonnes. J'en dis pas davantage, mais c'est vrai qu'après une petite pause, là, les résultats sont assez heureux depuis 24 heures. Philippe Asselin nous en fera toute la nomenclature dans quelques minutes. Le temps de vous donner le petit menu de ce qui composera la presque prochaine demi-heure. Alors que dans deux cas, on ira faire un tour à Rio. D'abord, dans une grosse dizaine, on va discuter avec l'athlète en paracyclisme Nicole Clermont, qui disputait aujourd'hui la deuxième de deux épreuves dans lesquelles elle était inscrite à ses premiers paralympiques. Clermont, on vous en a peut-être glissé un mot, à vrai dire, on vous en a glissé un mot à quelques reprises dans cette série. C'est cette directrice d'école, 55 ans, qui participait à ses premiers Jeux paralympiques et qui a plutôt bien fait, d'ailleurs. Alors, on ira la retrouver. Elle disputait la deuxième épreuve là, de son cursus pour ses Jeux de Rio aujourd'hui avec le contre-la-montre sur route. Voilà. Et sinon, comme à l'habitude, on va terminer avec une petite jasette avec un collaborateur sur place. Dans ce cas-ci, une collaboratrice. Il s'agit bien sûr d'Émilie Bouchard-Labonté, la journaliste de Sportcom, avec on va continuer à parler de natation et également de basketball. Dans les deux cas, ces épreuves, ces compétitions qui progressent ou qui sont terminées. Et on me dit que Émilie nous parlera en direct de la plage où elle a les deux pieds plantés dans le sable, ce qui est absolument charmant, surtout pour une première journée plutôt automnale, ou enfin une deuxième journée plutôt automnale sur Montréal, là où se trouvent nos studios. Et on s'offre également avec Philippe un petit segment légende. Chacun une légende des Paralympiques à vous proposer. Ça, c'est prévu pour dans quelques minutes parce que pour tout de suite, on va s'intéresser aux derniers résultats sportifs. Avec M. Philippe Asselin qui est là, résultats en main. Des résultats heureux, Philippe.
Oui, des résultats heureux, comme tu l'as dit en introduction. 4 médailles depuis qu'on s'est parlé hier.
C'est pas pire,
ouais,
ça.
Pas pire pantoute. On va commencer avec ça. Donc, d'abord, la sensation de ces Jeux. Aurélie Rivard en natation, 100 mètres libre féminin. Elle a gagné l'or hier avec un temps de 59,31 secondes. Très belle performance pour Aurélie
Rivard. Elle a battu le record.
Oui.
Qu'elle avait elle-même
fait dans la journée.
Donc, elle s'est battue elle-même. C'est pas pire.
Et sinon, aujourd'hui, trois autres médailles pour le Canada en cyclisme sur route. D'abord, en fait, tous au contre-la-montre. Donc, en catégorie C2 chez les hommes, Tristan Chernov a gagné la médaille d'or. En catégorie C1, encore chez les hommes, Russ Wilson a gagné la médaille d'argent. Et en catégorie H3, chez les hommes, Charles Moreau de Victoriaville a gagné une médaille de bronze.
Les trois couleurs.
Ouais, exactement. Donc, une grosse journée pour le Canada. Sinon, on revient à hier en athlétisme, au 800 mètres. Austin Sneak a terminé 7e, fera la finale ce soir à 17h50 précisément. En boccia, rappelons qu'il y avait un affrontement entre deux Canadiens, entre Marco Dispaltro et Allison Levine.
Mm-hmm. Tu nous avais d'ailleurs prédit qu'un Canadien l'emporterait.
Il y avait des très bonnes chances. Et c'est finalement un Canadien qui l'a emporté, Marco Dispatrio, qui a emporté 5-2. Sinon, en boccia, deux défaites pour d'autres athlètes, alors que Éric Buissière a perdu contre un Belge et que Bruno Garneau a perdu contre un Coréen du Sud. En goalball, le Canada jouera encore de finale ce soir. Mm-hmm. Hier, le Canada a battu l'Australie 6-0 pour porter sa fiche à 2-2. Donc, les quarts de finale contre les États-Unis ce soir à 19h30. En volleyball assis, le Canada a perdu contre l'Ukraine, malheureusement, 25-20, 25-19, 25-16. Et voit sa fiche glisser à 0-3. En natation, sinon, Tess Rutliff a gagné la médaille d'argent. Ah oui, une médaille qui m'avait glissé des mains, des yeux. Ben oui, à terminer cinquième.
Heureusement que c'est pas toi qui es sur le podium.
Ben non, exactement, une chance.
Sinon,
hein?
La médaille serait tombée par terre.
Et sinon, Nathan Steen a terminé septième dans la finale hier soir. Sinon, aujourd'hui, en tir à l'arc individuel masculin, Kevin Evans a perdu contre un Italien 146 à 128 en ronde des 32. Et en boccia, aujourd'hui, 3 défaites pour les athlètes. Donc, ça se ressemble du côté de la boccia pour le Canada.
Le Canada, oui. Ouais. D'accord. On s'offrira un petit tableau des médailles en fin d'émission.
En fin d'émission,
Philippe,
c'est parfait. Ouais.
Excellent. Et avant d'aller faire un tour à Rio, on s'offre un petit segment des légendes avec Philippe et moi-même. Non pas qu'il est question de nous, mais bien de légendes du sport paralympique. Et je commence, Philippe, en te parlant, ben, en vous parlant d'une une athlète en tennis, en fauteuil roulant, dont le palmarès est absolument renversant. Petite incursion dans les coulisses de la production de cette émission. Plus tard, plus tôt aujourd'hui, alors qu'on préparait le show, on s'échange, on choisit un peu, Philippe et moi, de qui on va parler. Et quand j'ai vu son palmarès, j'ai dit « Shotgun, Philippe, c'est moi, qui parle de Esther Verguir, donc une joueuse de tennis en fauteuil roulant qui est originaire des Pays-Bas. Et c'est surréel. D'abord, le palmarès en paralympique, là, c'est des médailles et des médailles, en voulez-vous. Elle a 4 médailles en simple aux Jeux paralympiques. Des médailles d'or en 2000, 2004, 2008 et 2012 en simple, des médailles d'or en double en 2000, 2004 et 2012 et une médaille d'argent en double chez les dames en 2008, bien sûr, donc pour un total de 7 médailles en tout et partout. Là. Ce qui m'a surtout fait sortir de moi-même, c'est son palmarès en grand chelem et en tournoi, parce que lorsque vous regardez Roland Garros, par exemple, il y a également un volet de tennis en fauteuil roulant. C'est vrai dans les tournois du Grand Chelem, mais c'est vrai aussi dans plusieurs tournois internationaux. Et dans ce registre, de Verguir, elle est d'abord meilleure joueuse au monde depuis 1999. Elle a pris sa retraite en 2013. Et en 2013, quand elle a pris sa retraite, sa dernière défaite remontait au 30 janvier 2003.
10 ans.
Elle a été invaincue pendant 10 ans, pendant 470 matchs en tournoi. Et là, si je vous faisais son palmarès paralympique, son palmarès en grand chelem est encore plus brillant. C'est 9 victoires aux internationaux des Australies, 6 à Roland-Garros, 6 aux internationaux des États-Unis. Et c'est presque la même chose en double dans ces tournois. Et en lisant sa bio, on dit « chez les professionnels », ce qui a piqué ma curiosité. Et effectivement, il y a des bourses qui sont, moindres que pour le volet du simple et du... c'est-à-dire pour le volet masculin et féminin du simple, par exemple. Là, pour se donner un ordre de grandeur, en 2016, gagner Wimbledon, ça valait 2 millions de livres sterling au vainqueur. Et 25 000 livres sterling pour le vainqueur du tennis en fauteuil roulant. Alors, on est dans des proportions là, qui sont absolument pas comparables, mais reste que Verguir a pu plutôt bien gagner sa vie sur les circuits internationaux de tennis. Ce sont donc des compétitions que l'on peut suivre à l'année. Surtout quand il y a une championne de cet ordre-là. Donc, 162 victoires en simple en carrière sur les tournois internationaux. Et en 2010, elle est devenue la première athlète handicapée à faire partie d'une édition annuelle on appelle ça The Body Issue du magazine ESPN. C'est un magazine papier, donc, qui, une fois par année, publie un numéro dans lequel on voit des athlètes dans leur plus simple appareil. Et en 2010, donc, elle est devenue... Il y en a eu d'autres depuis, là, des athlètes paralympiques ou des athlètes handicapés qui ont été en vedette dans
cette édition, mais en 2010, elle est devenue la première. Alors, Esther Verguir, on dit que c'est la Roger Federer du fauteuil en tennis roulant. Moi, je dirais le contraire. Je dirais que Federer est le Esther Verguir du tennis.
Et pour ma part, Alexandre, eh bien, on va du côté d'un Suisse pour les légendes. Il s'agit de Heinz Frère. Heinz Frère est né le 28 janvier 1958 en Suisse. Et c'est un champion suisse donc d'athlétisme. Lui qui a fait une brillante carrière dans les marathons. Alors lui, pour la petite histoire, a été victime d'un accident lors d'une course en montagne en 1978. Il est depuis donc paraplégique. Pendant sa carrière sportive, titré 22 fois aux Jeux paralympiques, très impressionnant, et 12 fois en championnat du monde en marathon, et détenait en 2007 les records du monde aux 400 mètres, 800 mètres et 10 000 mètres de ces catégories. Entre 1995 et 1999, il a été nommé à 5 reprises sportif suisse de l'année dans la catégorie sport avec un handicap. Pour la petite histoire aussi, en 2000, il a été récompensé par Adolphe Oggi au nom de tous les sportifs handicapés du prix Souza de la solidarité solidarité, voilà, merci.
J'ai rien fait, moi.
Je me remercie moi-même. En 2005, il remporte encore le 800 mètres et termine troisième aux 10 000 mètres des championnats d'Europe. La même année, il fête son cinquième succès sur le marathon. En 2008, il devient le double médaillé d'or au handbike lors des Jeux paralympiques d'été de 2008, donc à Beijing. Et en 2012, il gagne son cinquième titre paralympique en remportant l'or au contre-la-montre durant les Jeux paralympiques de Londres. Donc, il gagne aussi une médaille de bronze cette année-là au relais qui était composé aussi de Sandra Graf et de Jean-Marc Berser. Donc, impressionnant de la part de Heinz Frère, lui qui est donc le Suisse le plus médaillé aux Jeux paralympiques de l'histoire.
Merci beaucoup, Philippe. On va maintenant rejoindre à Rio l'athlète en paracyclisme Nicole Clermont. Nicole, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes officiellement une paralympienne, Nicole. Comment on se sent?
Très honorée d'être ici à Rio pour représenter le Canada. Un peu de fatigue accumulée suite à la course d'aujourd'hui, puis la gestion du stress de se retrouver dans un événement de cette envergure. Malgré le résultat qui n'est pas tout à fait ce que je m'attendais, très fière de ma performance.
Je dis vous êtes officiellement une paralympienne parce que, corrigez-moi si je me trompe, vous aviez deux épreuves, vous étiez inscrite dans deux épreuves. La deuxième se passait aujourd'hui. C'était vos premiers Jeux paralympiques. Est-ce que là, je sais qu'il est très, très tôt, là, vous venez tout juste de terminer, mais si on compare ce qui étaient vos attentes, peut-être pas seulement en termes de résultats, là, mais ce qui étaient vos attentes versus la réalité, ça ressemble à quoi?
Il faut dire qu'il me reste encore une course à faire. Alors, j'ai fait une course au Vélodrome, la poursuite 3 km, dans laquelle j'avais vraiment aucune attente parce que j'ai pas d'expérience en piste. Alors, aujourd'hui, c'était le contre-la-montre. Je voulais faire une bonne course, chose que j'ai faite. Je voulais vraiment tout donner mon maximum. J'ai fini la course avec plus aucune réserve. On a vraiment vidé le réservoir, comme on dit. Alors, c'est quand même une bonne préparation pour la course sur route là, de samedi, qui va être extrêmement difficile parce que le parcours est très relevé, beaucoup de montées, et des filles qui roulent très fort, mais écoutez, on va donner notre maximum. Et juste le fait d'être ici, pour moi, un parcours de 4 ans d'entraînement intensif, je suis très fière. Oui.
Dites-moi, êtes-vous toujours en communication parce que la première épreuve à laquelle vous avez participé, évidemment, c'est du bonbon pour les médias. On a plusieurs confrères qui sont allés faire un tour à l'école dont vous êtes directrice. Est-ce que vous avez les échanges sont continuels ou c'était seulement pour cette première épreuve?
Cette première épreuve devait être normalement télédiffusée. Alors, ils voulaient l'avoir en direct ce matin. Je coursais à 8h26, heure de Rio, donc c'était 7h26 au Québec. Trop tôt, les élèves n'étaient pas encore à l'école. Possiblement que la course de samedi, mais là, les enfants ne sont pas à l'école, mais je suis quand même en communication avec le personnel. Puis aujourd'hui, je leur ai fait un petit clin d'œil encore là, dans les médias. Je veux qu'ils soient persévérants dans leur travail, dans leurs études et dans leur passion aussi, que ce soit dans le sport ou dans la musique ou les arts ou peu importe. Je veux leur transmettre là, le goût d'aller au-delà de soi.
Et votre histoire, on en a parlé un petit peu avant, non seulement aujourd'hui, mais on en a parlé au début de notre série. Racontez-nous un peu comment vous en êtes venu à faire du sport d'élite, dans le fond, parce que c'est de ça dont il s'agit.
Oui, écoutez, ben, je suis éducatrice physique de formation. J'ai toujours fait du sport toute ma vie. Par contre, jamais dans une équipe nationale. C'est vraiment le fruit du hasard. Je suis membre du club cycliste de Sherbrooke et j'avais une collègue qui était sur le même peloton que moi, Suzanne Labrec, qui était à ce moment-là médecin sur l'équipe nationale. Elle a remarqué mon handicap lors d'une soirée où je tenais mon cabaret avec mon bras gauche, puis on remarquait bien le handicap. Puis là, à la blague, elle m'a dit « Ah, j'avais jamais remarqué, peut-être que tu pourrais faire du paracyclisme ». Et bon, sur le coup, c'était vraiment une blague, mais elle m'a mis en contact avec l'entraîneur Sébastien Travers. Puis, ayant toujours fait du sport, puis étant quand même dans une bonne condition physique, on a fait des tests, puis on a dit, ben peut-être que ce serait possible. Alors, j'ai passé la classification, pour voir si le handicap était assez prononcé, parce que dépendamment du sport, ouais. Handicap ne veut pas nécessairement dire de pouvoir participer dans des épreuves de parents. Mais bon, finalement, ça a passé. Puis avec l'entraînement, il faut quand même faire des critères, des standards. Hein. Faut pas juste le handicap. Faut quand même aujourd'hui, c'est pas des handicapés qui deviennent athlètes, c'est vraiment des athlètes qui ont un handicap. Mm-hmm. Alors c'est un entraînement très très vigoureux, une discipline de vie assez importante, mais ça en vaut la chandelle.
Vous avez dit, et là, j'y vais, comment dire, c'est la curiosité qui parle, vous avez dit que votre résultat aujourd'hui, c'était pas exactement ce que vous aviez planifié. Qu'est-ce que vous aviez en tête?
Je savais que la première et la deuxième position, c'était vraiment inaccessible. Là, c'est vraiment deux cyclistes qui sont dans une classe à part. Par contre, la troisième marche du podium était accessible. On était environ... Je veux dire, cinq filles qui pouvaient batailler pour cette place-là sur le podium. Je m'attendais à être pas mal plus proche de la troisième position. Malheureusement, ouais. J'ai terminé huitième. Mais on va se reprendre pour la course sur route en espérant là, d'être capable de rester dans le peloton tout au long de la course puis jouer mes cartes à l'intérieur du peloton.
Et les objectifs sont les mêmes pour cette course?
Oui, les objectifs sont toujours les mêmes. Et c'est sûr que l'objectif principal, c'est d'aller de donner le meilleur de soi-même, mais on a toujours en tête de vouloir monter sur une marche ouais. de podium. La course sur route, tout peut arriver. On sait que c'est un parcours très sélectif, des descentes qui sont quand même rapides avec des virages serrés. Alors, c'est sûr qu'on va jouer de prudence, mais on va peut-être jouer sur la ligne rouge un petit peu.
J'allais le dire, tout peut arriver dans les épreuves de cyclisme sur route. On vous souhaite le meilleur, Nicole Clermont. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes, puis bonne fin de jeu.
Bien, je vous remercie beaucoup.
Au plaisir.
Merci, au revoir. We'll be right back.
Et le plan, c'était qu'on la retrouve alors qu'elle a les pieds dans la plage, la journaliste de Sportcom, Émilie Bouchard, La Bonté. Ben, bonjour d'abord.
Bonjour. Et... en effet, il y a des journées qui sont difficiles ici à Rio, je vous le dis.
Bon, donc le plan a été mis à exécution. C'est en direct de la plage qu'on se parle.
Exactement, mais pour être honnête, je serais dos à la mer présentement puisque je suis en train d'observer la dernière course de cyclisme, de paracyclisme qui m'intéresse aujourd'hui en tricycle. Marie-Ève Proto, je pense, vient tout juste de finir son contre-la-montre.
D'accord. Et bon, évidemment, ça a été une grosse journée de paracyclisme. Philippe nous a donné les résultats un peu plus tôt. La dernière fois qu'on s'est parlé, on remarquait que tu passais beaucoup de temps à la piscine. Si tu le veux bien, on va continuer à parler un peu de paranatation, notamment de Benoît Huot. Il y a un petit truc qui est passé dans les médias ici, puis on n'est pas tant revenu là-dessus, mais c'est en référence à la dernière course à laquelle il a participé alors qu'il a terminé quatrième derrière un trio d'athlètes ukrainiens. Huot, avec son élégance habituelle, je dirais, n'a rien dit de sensationnel, mais il y avait peut-être une petite interrogation à savoir si ces trois athlètes ukrainiens avaient bel et bien leur place à Rio. Est-ce qu'Émilie, tu peux un peu nous relater, expliquer un peu de quoi il s'agit?
Oui, tout à fait. Donc, c'est sûr que les Ukrainiens, ils sont arrivés dans des corps assez récemment. L'an dernier, Denis Dubrov, qui a remporté l'or là, aux 200 mètres, 4 nages, justement, avait fait le même coup aussi lors des championnats du monde l'an dernier. Il est apparu dans les corps du monde de la paranatation en 2014 lors des championnats européens. Donc, c'est assez récent. Et quand on s'informe sur son cas, c'est un athlète qui a déjà gagné des médailles en championnat européen chez les valides. Alors, pourquoi de quelques années, on performe bien chez les valides et ensuite on décide d'aller dans le mouvement paralympique? Ouais. Ça sème des interrogations. Mais la plus grosse interrogation, ça se peut que l'athlète peut avoir une condition qui se détériore ou quelque chose comme ça, mais ce que nous on fait dire, c'est que l'handicap de Dubrov n'est pas dévoilé au public. Donc, on peut même pas savoir vraiment c'est quoi son handicap, c'est quoi sa limitation qui permet d'évoluer dans le mouvement paralympique. Moi, la chose que j'ai à dire là-dessus, bon, c'est bien simple. Mettons que je parle d'Aurélie Rivard, qui hier a gagné une médaille d'or chez les S10 ouais. au 100 mètres libre. Mais Aurélie Rivard est détentrice du record du monde. Elle n'a pas fait son record du monde hier et c'est son objectif à elle. Oui, la médaille d'or, elle est super contente, évidemment, elle est ravie de gagner une deuxième médaille d'or aux Jeux paralympiques, mais elle n'a pas fracassé sa propre marque mondiale et ça l'a mis sur sa faim. Alors, la natation ou la paranatation, c'est pas comme une course de vélo. Bon, je suis au vélo présentement, là, où le 10 km ou le 20 km, on peut pas vraiment se comparer parce que les parcours sont différents. Des fois, il y a plein de montées, des fois sur le plat, des fois, il fait très chaud, des fois, c'est ça, il y a plein de facteurs. Mais une piscine, ça reste pas mal une piscine. Puis quand l'important, souvent, c'est de se dépasser soi-même, c'est ça qui nous satisfait. Mm-hmm. Alors, pourquoi un athlète deviendrait satisfait en gagnant des médailles paralympiques? Quand justement, il ne fait pas ses meilleurs temps, il nage beaucoup plus vite que ça, il a déjà nagé beaucoup plus vite que ça par le passé. Donc, c'est là qui vient ma grosse interrogation. C'est de là que vient mon pourquoi.
D'accord. Et ça expliquerait, parce que Benoît, si tu me corrigeras si je me trompe, dans cette course où il a terminé quatrième, a nagé un de ses meilleurs temps. Je ne sais pas si c'est en carrière, là, mais c'était assurément un de ses meilleurs temps de l'année.
C'était son meilleur temps depuis 2 ans.
C'est
son
ça.
Meilleur temps, c'est le record du monde qu'il avait fracassé lors des Jeux de Londres en 2012. Il n'avait pas refait ce temps-là depuis, mais c'est ça. Depuis les 2 dernières années, c'est la fois où il avait nagé plus vite. Donc, premier au monde derrière l'Ukraine, comme il a dit.
Comme il l'a dit. Et une Ukraine mystérieuse, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas de détails ou enfin, ça reste secret, la condition du champion ukrainien. Merci.
Et c'est ça, ce qui porte à l'interrogation, juste pour terminer, c'est que c'est pas juste un Ukrainien, mais maintenant, il y en a 3 dans le décor. Donc, ils sont apparus les 3 comme ça.
OK. Et les 3 sont dans exactement la même situation.
Ils sont tous les deux dans la même catégorie. Demain, ils vont nager le 400 mètres libre contre encore Benoît. Ouais. Donc, Benoît qui me disait, c'est que probablement que ça va être encore un triplé ukrainien. Ça va aller pour ça.
Il est déjà prêt psychologiquement. Bon, mettons ça de côté, Émilie, mais merci pour la clarification, puis ça nous aide un peu à resituer tout ça. Allons faire un tour maintenant au basket. C'est dans nos habitudes, j'ai envie de dire. Tu étais présente là, pour la défaite de l'équipe féminine qui a été riche en émotions.
Oui, ben je vous dirais, le quart de finale, les femmes affrontaient les Néerlandaises. La commande n'était pas facile puisqu'elles étaient troisième au monde, au dernier championnat du monde. Les Néerlandaises, les Canadiens avaient gagné, mais affrontaient en quart de finale les troisièmes au monde. C'est quand même une grosse commande. Après le premier quart, c'était très serré. Les Néerlandaises menaient par seulement un point, mais un petit creux de vague là, chez les Canadiennes dans le deuxième quart. C'est vraiment ce qui a fait de la différence. Un écart de 11 points qui s'est maintenu en troisième quart. Et ensuite, ben là, je pense que les Canadiennes avaient un peu lâché prise. Les yeux rougis, il a fallu interrompre les entrevues parce que les filles pleuraient. Donc, c'est un gros moment d'émotion. Ouais. C'est sûr que c'est pas le tournoi qu'elle espérait. Elle venait ici pour une médaille. Elle voulait aussi venger Londres où c'est arrivé la même situation, défaite en quart de finale. Donc, elles avaient fini sixième à Londres. On va leur souhaiter quand même une cinquième place. Le match, il va avoir lieu vendredi matin.
Ce qui serait une amélioration. Est-ce que, juste en terminant là-dessus, est-ce que c'est une équipe qui était semblable à celle de Londres ou là aussi, il y a eu beaucoup de changements?
Il y a eu quelques recrues qui se sont ajoutées. Sinon, je pense que le gros morceau est quand même resté avec 4 ans de plus d'expérience derrière elle. On parle de Cindy Ouellette, qui est une des deux capitaines qui vient de Québec. C'est ses troisième jeu paralympique. Alors, il y avait quand même de la profondeur dans l'équipe. Elles l'ont prouvé en gagnant les mondiaux l'année dernière. Mais c'est ça, il y en a manqué un peu ici à Rio.
Émilie Bouchard, la montée de Sportcom. Bonne fin de paracyclisme. Et quand tu auras terminé, retourne-toi et regarde la mer, s'il te plaît.
Promis, parce qu'en plus, là, je pense que le vent se lève. Ça se peut qu'il y en ait de la pluie.
Bon, pour en profiter pendant que ça passe. Merci encore, Émilie.
À bientôt.
Au revoir. Et déjà, cette édition de notre magazine qui se termine. Philippe Asselin, qu'est-ce qu'on surveille ce soir?
On va surveiller de la natation, bien entendu. On a quelques athlètes en finale. On va suivre aussi du rugby en fauteuil roulant. C'est le début de la compétition.
C'est vrai.
Pour les athlètes, l'équipe masculine de rugby qui affrontera le Brésil et demain la Grande-Bretagne. Je vous reviendrai demain, bien entendu, avec tous les résultats. Et si on regarde rapidement du côté du tableau des médailles avec cette excellente dernière 24 heures du Canada, on est présentement classé 13e au total avec 5 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 4 de bronze. La Chine est toujours première avec 153 médailles, suivie de la Grande-Bretagne, de l'Ukraine, des États-Unis et du Brésil pour compléter le top 5.
L'objectif du Canada qui était...
De finir 16e. Dans le top 16. Ouais. Je pense que c'est ce que Chantal Petitclerc nous avait dit lors de la première émission.
Alors, c'est toujours possible. Enfin, c'est même... Si les Jeux s'arrêtaient aujourd'hui...
Ce serait réussi.
Mais ils ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Ils vont se poursuivre. Et nous, bien sûr, on se retrouvera demain. Le temps de remercier, bien évidemment, Nicole Clermont, à qui on a parlé un peu plus tôt, l'athlète en paracyclisme. Émilie Bouchard-Labonté de l'agence Sportcom, avec qui on vient tout juste de jaser. Un gros merci à Philippe Asselin, la colonne vertébrale de cette émission, Christiane Campagna aux réseaux sociaux, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au réveil matin. Merci Jean-Sébastien. Je m'appelle Alexandre Coupal. On se retrouve demain 15h.